porte d'entrée vers ce qu'on appelle l'agro-industrie, le capitalisme, le colonialisme et tous les mots qui vont avec. Quand prends-tu conscience que nos campagnes vont mal ?
Très tôt, certainement dès l'âge de 20 à 25 ans, même si à cette époque-là, on est plus préoccupé par ce qui va devenir peut-être sa carrière ou sa formation. Je suis de la génération ou la fin de la génération des Trente Glorieuses, quoi. Je suis de ceux qui voient arriver les remembrements quand j'ai une douzaine d'années. Et les remembrements, c'est un premier traumatisme dans la mesure où c'est le moment où le terrain de jeu de mon enfance sont brûlés et partent en fumée dans l'indifférence générale. Et puis une fois que je suis ado, vers 15-17 ans, c'est les zones humides qui commencent à trinquer, les rivières qui sont massacrées. Donc j'avais pris une carte de pêche, mais je suis vite calmé. Et c'est à cette période-là aussi que je vois disparaître un monde. Mon grand-père était paysan, mes premières années, c'est à la ferme. Je vois disparaître un modèle d'agriculture, d'agriculteur, de paysan qui vivait en harmonie avec le milieu, qui respectait à la fois le milieu et qui en même temps avait su s'adapter à ce milieu. Je me souviens qu'on commençait à dire à cette époque-là, le Poitou-Charentes, c'est quand même pas la Beauce. Il ne faudrait pas transformer le Poitou-Charentes en Beauce. Et on était en train de le faire. Et puis on a continué et malheureusement, je me suis souvent dit que ça allait s'arrêter à un moment donné, mais non, ça ne s'arrête pas. Ils remettent en permanence des pièces dans la machine. On continue d'arracher plus de haies qu'on en plante, même si on commence à dire qu'il faudrait planter. Il faut rester optimiste, mais c'est quand même un peu tard. On est en train de subir aujourd'hui, et dans notre région, le réchauffement climatique, on n'en est pas les seuls responsables, mais dans notre région, ces fameux aménagements qui ont été faits et qui continuent de se faire aggravent encore plus le réchauffement climatique. Il serait temps d'enfin arrêter la machine et de calmer ce modèle agricole, cette industrie, puisque ce n'est plus de l'agriculture, c'est de l'industrie, qui est en train d'empoisonner ces anciens agriculteurs, qui est en train d'empoisonner notre avenir, qui empoisonne la planète dans son ensemble et qui empoisonne nos enfants. Qui fait que des jeunes aujourd'hui s'interrogent sur leur avenir. Est-ce qu'on doit faire des enfants? Est-ce qu'on va mourir dans notre lit, nous? C'est pas sûr. Hein, j'en veux beaucoup aujourd'hui aux politiques. J'ai compris pendant ma carrière d'élu que les politiques étaient les premiers responsables de tout ça. À chaque fois, ce sont des choix politiques. Partout où il y a des pouvoirs de décision, les lobbies sont là, de la commune jusqu'au ministère. Tant que les élus ne seront pas en capacité de faire le ménage, de virer ces parasites, et j'ai rien contre les parasites, mais ceux-là, ils sont en train de mettre à mal notre avenir. Donc il faut les arrêter. Il faut absolument les arrêter. De toute ma carrière d'élu, en permanence, je me disais, mais on est là pour défendre l'intérêt général. Les élus, quand ils sont dans des logiques comme celle-ci, ils ne défendent pas l'intérêt général. Ils défendent des intérêts particuliers, avec de l'argent public souvent. Quand on revient sur le dossier des bassines et qu'on commence à regarder un petit peu les communes qui sont concernées par des bassines, on s'aperçoit que là, on est dans des conflits d'intérêts pratiquement à chaque fois. Sur la première tranche des 16 bassines de la Coupe de l'eau, les 6 communes retenues pour la première tranche, c'est des communes où les élus sont pro-bassines. Mosé, c'est le premier adjoint qui voulait sa bassine. Épane, c'est Madame le maire, qui sera plus maire puisqu'elle s'arrête maintenant, mais qui a obtenu une bassine pour elle, pour son fils et pour son premier adjoint. C'est pareil à Sainte-Soline, c'était pareil à Épane, où c'est le président de la FNSEA 17 et 79 qui réclamait sa bassine. Ferrières, c'est Servant, président de la FNSEA Charente, et Charente-Maritime aussi. À la Laigne, c'était Boucard, président de la coordination rurale. Chaque représentant syndical a sa bassine à lui, financé avec de l'argent public. C'est quoi ça si c'est pas du détournement d'argent public et de l'ignorance de l'intérêt général ?
Alors quand tu dis représentant syndical, faut entendre membre de la FNSEA. On dit que c'est un syndicat. Syndicat, c'est bien, ça fait gauche, ça fait lutte des classes, tout ça, machin. Mais en fait, c'est pas un syndicat, c'est maître d'œuvre des lobbies au service de l'agro-industrie, des marchands de chimie, des marchands de machines.
Ce sont des mafieux, fonctionnement mafieux. Ils sont effectivement implantés partout. Quand j'étais élu, par exemple, au sein des communes, quand ces agriculteurs-là se présentent, ils ne se présentent pas pour défendre l'intérêt général. Ils se présentent pour être dans les commissions, et dans les commissions syndicats de rivière, syndicats d'eau, syndicats de marée, commissions des impôts quand même aussi, pour payer un minimum de taxes foncières. Ils viennent défendre l'intérêt de la famille, ou leurs propres intérêts, les intérêts de leur syndicat. Mais ils ne s'intéressent pas à l'école, c'est pas leur problème. Le social, c'est pas un truc, ça, non, non. Dans les années 80, c'était un des mots d'ordre de la FNSEA, il fallait être partout où il y avait des pouvoirs de décision. Et ils sont partout. Le cancer, les métastases sont partout. La pieuvre est partout. Au ministère, moi j'ai eu l'occasion de côtoyer des élus, des députés, des sénateurs, de visiter l'Assemblée, bon... Les bureaux de ces lobbies sont à côté des bureaux des sénateurs, des députés. Ils sont là. Veolia, la FNSEA, Vinci, ils sont tous là. Pourquoi ils sont là? Pour défendre leurs intérêts, des intérêts privés. Et ils vont piquer l'argent public, en plus, pour développer leurs projets. Ça n'est que ça, de la commune jusque là-haut.
Alors là, tu parles d'une poignée d'individus qui s'engraissent avec de l'argent public et au détriment du commun, du bien commun, de l'eau, de la terre. Il faut aussi comprendre que beaucoup d'exploitants agricoles qui sont à la FNSEA sont des victimes de la FNSEA. D'ailleurs, la FNSEA affiche dans ses objectifs de réduire le nombre d'exploitations agricoles pour qu'il n'y ait plus que des fermes-usines. Et donc, Bassine Non-Merci notamment, mais les soulèvements aussi, insistent beaucoup là-dessus. L'agri n'est pas l'ennemi. Il faut aussi voir l'agri comme une victime de cette mafia.
C'est une évidence, c'est une évidence.
C'est facile à expliquer.
C'est difficile pour eux de reconnaître qu'ils sont manipulés, mais il est certain qu'aujourd'hui, le vrai problème de fond de l'agriculture, je ne vais pas le résoudre aujourd'hui, mais c'est que des gens travaillent et ne vivent pas de leur travail. Pourquoi ils ne vivent pas de leur travail? Parce qu'ils ont pu la main, dès le début, sur la céréale qu'ils vont semer, ils ne peuvent même pas récupérer une partie de leur récolte pour ressemer, ils doivent passer par la coopérative. Donc il va falloir qu'ils payent leurs semences. Dans un deuxième temps, on leur a imposé, pour certains, ils y sont allés gaiement quand même en croyant qu'ils allaient réussir à bouffer leurs voisins, on leur a imposé un modèle qui fait qu'aujourd'hui, ils choisissent pour leurs céréales. On a spécialisé tous les métiers. Ils ne peuvent plus faire de la polyculture, ils ne peuvent plus avoir une activité en équilibre avec un peu d'élevage et un peu de céréales pour nourrir les animaux. La polyculture, on l'a abandonnée pour spécialiser. Soit on est éleveur hors sol dans des usines à merde, soit on est céréalier et rien que céréalier. Déjà, ça les fragilise parce que quand une année était mauvaise avec les animaux, on se rattrapait sur les céréales ou inversement. Déjà, ils deviennent beaucoup plus dépendants. Donc, encore une fois, ils vont aller chercher leurs grains, ils vont aller à la coopérative, puisqu'ils ne font plus cette rotation, ils n'ont plus l'amendement des animaux pour acheter l'engrais. La coopérative va vendre l'engrais. Ensuite, la coopérative va leur vendre, maintenant au printemps, là, il commence à y avoir un peu de rosée, on va vendre le fongicide. Après, on va vendre l'herbicide. Après, on va vendre l'insecticide. Maintenant, on va devoir acheter l'eau. C'est plus eux qui définissent le prix, donc là ils sont à la merci, à la dépendance de la coopérative qui se porte bien, les coopératives se portent très bien. Et c'est derrière elles aussi qui sont derrière les bassines. Et puis après la deuxième phase de leur activité, c'est la vente. C'est plus de la vente directe, c'est directement Leclerc et tous les autres et toute la clique qui vont définir le prix des marchandises. Et donc ils vont devoir vendre à perte. Ils vont devoir vendre un produit qui n'est plus un produit, qui est de la merde la plupart du temps, puisqu'il est empoisonné par tous les bouts, hein. Ils vont le vendre à l'agroalimentaire, qui vont fixer, eux, les prix. Et il va s'étonner à la fin du compte qu'il ne lui reste plus rien. Une fois qu'il a payé la coopérative et qu'il a bradé ses produits à l'agroalimentaire, il ne lui reste plus rien. Ben oui, il ne lui reste plus rien, parce qu'il faut qu'il reprenne son indépendance.
T'es passé par tous les produits chimiques qui donnent le cancer, l'Alzheimer et tout ce que tu veux. Rappelez aussi que les premières victimes de cette chimie sont les exploitants agricoles eux-mêmes.
Ce sont eux. Les paysans sont devenus des exploitants et les exploitants maintenant sont exploités. Et parmi eux, il y en a forcément quelques-uns qui sont devenus, comme ils disent, des agri-managers parce qu'ils ont réussi à s'agrandir en bouffant leurs voisins. Mais la grande majorité d'entre eux sont devenus des commis agricoles, rien que des commis agricoles qui n'ont pas la main sur leur avenir, absolument pas. Et qui sont malheureux et qui sont les premiers à être empoisonnés effectivement avec ces fameux produits.
Sans parler du taux de suicide extraordinaire qu'il y a dans cette profession.
Exactement, mais c'est une pression infernale. Les vrais coupables, ce sont encore une fois ces élus, qu'ils soient sénateurs ou députés, qui, eux, soutiennent le glyphosate, soutiennent les pesticides, les herbicides, le fameux du plomb. Là. C'est quand même assez incroyable quand on sait en plus ce qui touche d'aide publique et de l'Europe. Je ne pourrais pas me promener dans la rue si j'avais ça sur moi. Ils devraient avoir honte, ces gens-là. Je serais peut-être un peu méchant, mais je pense qu'on devrait les condamner ou les obliger à boire un verre de glyphosate tous les matins. Quoi. Je ne souhaite pas les tuer, mais au moins commencer à les rendre malades pour qu'ils se rendent compte à quel point ils sont ignobles. Quoi.
Question à laquelle il n'y a probablement pas de réponse ou beaucoup de réponses possibles. Comment on s'en sort? Faudrait désarmer cette FNSEA, ces coopératives, permettre à des jeunes... Parce que la terre aussi, elle est devenue intouchable pour des jeunes qui n'ont pas trop de sous. Les exploitations, elles sont de plus en plus grosses. Les jeunes ne peuvent pas accéder à la terre.
C'est très difficile d'en sortir. En plus, ces lobbies, ils ont les moyens de faire pression. On ne peut pas se sortir de la coopérative comme ça. On ne peut pas se sortir de l'agroalimentaire comme ça. On ne peut pas redevenir indépendant comme ça. Ce qu'on voit dans le film Soulèvement, il va falloir à un moment donné, mais la nature va nous l'imposer, il va falloir revenir aux fondamentaux. Et revenir aux fondamentaux, c'est revenir à la proximité, revenir au bon sens. Parce que le bon sens paysan, il y avait un slogan du Crédit Agricole qui l'avait sorti, le bon sens près de chez vous. C'est-à-dire que le bon sens du paysan était passé au Crédit Agricole, parce que je n'ai pas parlé des banques, mais dans les lobbies, ils sont là aussi, hein, pour leur vendre du matériel dont ils n'ont pas besoin. Et quand on écoute Macron, ça serait l'avenir de l'agriculture que d'informatiser. Non, c'est revenir aux fondamentaux et ces jeunes... et beaucoup d'agriculteurs de la Conf en particulier, qui reviennent à la proximité, qui reviennent à une production saine, propre, sans la coopérative. Mais il faut qu'ils aient le soutien des consommateurs. C'est en train de s'organiser. Le bio en est un exemple, mais bon, il faut aller encore plus loin. Il faudrait déjà arrêter sur le plan politique cet objectif-là, que l'agriculture devienne une industrie d'exportation. L'agriculture, ils sont là pour nous nourrir, donc qu'on nourrisse les gens. Ici, on est en Poitou-Charentes, eh bien, on fait une agriculture adaptée au Poitou-Charentes, au sol, au climat, aux régions. Et on nourrit en priorité les villes et les villages qui sont à proximité. Si on a du surplus, effectivement, on peut commencer à faire du commerce et à faire des échanges. Ce n'est pas interdit, ça a même été toujours de tous les temps. Mais on ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même panier et tout mettre dans l'exportation. Aujourd'hui, les agriculteurs, contrairement à ce que disent les élus, nos agriculteurs, ils ne nourrissent pas. Ils sont dans un modèle où l'important, la priorité, c'est l'exportation. Et le Poitou-Charentes en est un exemple avec le port de la Palisse. On pourrait faire dans le marais du maraîchage, des légumes, et nourrir Poitiers et toutes les villes autour, La Rochelle. Non, on importe nos légumes, on importe nos fruits, alors qu'on a la possibilité, on a les terrains, le climat, pour tout faire sur place. C'est absolument incohérent. Ça ne peut pas durer, ce n'est pas possible. De toute façon, on est au bout du bout. Hein. On est au bout du bout au niveau des pollutions de l'air, des sols, de l'eau. Je viens de lire un bouquin qui a été écrit par le doyen de la faculté d'Angers, ce que le réchauffement climatique va faire à l'Europe. Bien, ça va saigner. Ça a déjà commencé. On va se retrouver dans une situation où, sur le plan mondial, ça a déjà commencé au niveau des conflits. Je ne veux pas parler de fin du monde, mais alors c'est 2/3 de la population qui est condamnée à disparaître assez rapidement, avec un dernier tiers où c'est Mad Max. Hein, on est dans le dernier endroit où on peut encore cultiver et se nourrir, mais c'est la guerre quand même. On va arriver à un moment donné où les endroits où on pourra encore cultiver pour nourrir les populations vont se réduire. On va arriver à des situations où le sud va être trop sec, et le nord va être trop froid ou trop mouillé. et tout le monde va devoir se retrouver dans une bande le long de l'Atlantique. Là. Il parle beaucoup de basculement. On parle de El Niño qui commence à repointer son nez, on parle du Gulf Stream, de modification de la température de l'eau, parce que l'eau de mer monte, ça peut être inquiétant, mais ce n'est pas ça le plus grave. C'est sa dégradation et son réchauffement. Le réchauffement de l'eau fait que le Gulf Stream, à un moment donné, il s'arrête. Et le climat tempéré qu'on a là, il dépend du Gulf Stream. Et le climat tempéré qu'on a là, il dépend du sol et de sa capacité à absorber l'eau. Il dépend de la végétation et des arbres en particulier. Quand on n'a plus l'évapotranspiration, quand on n'a plus suffisamment de végétaux pour maintenir une humidité au sol, on entre dans une période de début de désert. Et si en plus on a des chaleurs qui dépassent les 40 degrés, on était il y a un mois dans les inondations, dans deux mois on peut être dans la sécheresse. Parce qu'on ne veut pas garder l'eau dans les sols. Les paysans, les vrais, ceux qui ont compris comment fonctionnaient les sols et la terre et le vivant, ceux-là ils le disent. Mais de l'eau, ce n'est pas au soleil qu'on doit la mettre, c'est dans les sols. On a besoin d'eau, effectivement, mais il faut freiner son écoulement. Il faut arrêter d'accélérer le cycle de l'eau comme on l'a fait depuis 50 ans. C'est plus que se tirer une balle dans le pied, c'est créer le désert. Non, il faut revenir aux fondamentaux, retenir l'eau, freiner son écoulement. D'ailleurs, la loi sur l'eau est très claire là-dessus. Chacun est responsable de l'eau qui tombe sur sa parcelle. Il n'a pas le droit d'en priver son voisin qui est en aval, et il n'a pas le droit de s'en débarrasser en créant des fossés, par exemple, ou un drainage pour l'envoyer le plus vite possible chez son voisin en aval. S'il a une rivière qui passe à proximité, il a le droit d'utiliser l'eau, mais il ne doit pas en priver ceux qui sont en aval, et il ne doit pas prendre tout pour que les autres en amont n'en aient plus.
Il y a eu de fortes précipitations, là, donc on est en mars 2026, et donc beaucoup d'eau est tombée. Les pro-bassines s'en sont emparées en disant, bah, vous voyez, il y a toute cette eau qui va à la mer, là, en plus ça nous inonde, on aurait des bassines, on pourrait la stocker. Or, toute cette eau qui est tombée, ça ne veut pas dire qu'elle a rechargé les nappes phréatiques. Elle a juste glissé sur des sols imperméabilisés.
On dit sans se tromper que l'eau qui mettait avant 3 jours à rejoindre la rivière, parce qu'il y avait des talus, des haies qui freinaient son écoulement et qui l'obligeaient à percoler et à descendre dans les nappes, on dit que l'eau qui mettait 3 jours à rejoindre la rivière, aujourd'hui elle y est en 3 heures. C'est une caricature, mais c'est une réalité. Et ceux qui nous disent l'eau qui va à la mer est perdue et toute cette eau qui est tombée, on aurait pu les mettre dans des bassines, c'est vrai que ça serait un peu moins idiot de prendre de l'eau de ruissellement pour la mettre dans des bassines plutôt que de prendre l'eau des nappes. Mais ça, soit ils nous disent que les bassines se remplissent avec l'eau de pluie, ça ils le disent de moins en moins parce que ça devient de moins en moins facile à démontrer.
Parce que c'est pas vrai.
Mais parce que ça n'est pas vrai. Et puis ils nous disent aussi que ça pourrait être justement toute cette eau de débordement, de ruissellement. Mais non. Si c'était celle-là, ça serait moins grave, mais il suffirait de refaire le marais mouillé à ce moment-là. Mais si c'était celle-là, le président de la COP de l'eau, je lui avais posé la question. Oui, mais prendre cette eau-là, c'est de l'eau de ruissellement, il faudrait qu'elle décante un peu, parce qu'elle vient de ramasser toutes les saletés qu'ils ont balancées dans les champs. Et si on la stocke au soleil, les cyanobactéries et les algues vont arriver encore plus vite que dans de l'eau. Il m'avait dit non, il nous faut de l'eau propre, de l'eau fraîche et de l'eau de dessous. Mais on ne prend pas de l'eau de ruissellement ou de l'eau de débordement. Celle-ci, elle est très utile dans un marais inondé, comme elle était utile pour les crues du Nil, parce qu'effectivement, elle procédait à un autocurage des fossés. C'est Archimède qui avait trouvé ça tout seul. Et en plus, elle amendait les sols. Elle amenait les feuilles, les branches et tout ça directement sur le terrain. Il n'y avait même pas besoin de le faire. Ça se faisait naturellement. Il y a des exemples très intéressants. J'ai eu la chance un jour de rencontrer quelqu'un qui existe encore, c'est André Pochon. Un paysan breton. J'intervenais avec lui dans le cadre d'eau et rivières de Bretagne. J'avais 35 ans, donc c'était il y a longtemps. L'État était en train d'encourager les agriculteurs à devenir ou céréaliers ou éleveurs hors sol. À une salle qui était pleine d'agriculteurs, il dit « Mais quand même, soyez pas couillons, prenez la luzerne. » Il dit « Regardez, une vache dans un pré. Devant, vous avez la barre de coupe. » Ça fonctionne tout seul. Et derrière, vous avez l'épandeur à fumier. C'est une vache sur la prairie. On vous propose de l'enfermer. Sa merde, il va falloir la ramasser. Puis c'est vous qui allez l'emmener dans le champ. Parce que si vous ne l'emmenez pas dans le champ, vous n'aurez pas la nourriture pour lui emmener après elle. Vous allez devenir dépendant. Vous allez vous faire attacher. Ne faites pas ça. Gardez la polyculture. laissez vos animaux sur de l'herbe et faites les céréales pour les nourrir. Mais il n'a pas été entendu. Ça, c'était le bon sens paysan. Alors aujourd'hui, il y en a qui font de la luzerne, hein, mais qui la boostent, qui lui mettent de l'engrais, qui l'arrosent 3 fois, 4 fois, pour pouvoir la couper et aller l'apporter aux animaux enfermés dans des stabules. Aucun bon sens là-dessus. C'est difficile de trouver plus bête comme raisonnement. Et on a emmené l'agriculture dans cette impasse-là, pour préserver l'intérêt de quelques-uns.
7000 ans de civilisation, 7000 ans et puis grosse déception, tout ça pour ça, tout ça pour ça, tout ça pour ça, tout ça pour en arriver là, tout ça pour ça.
Ça pour ça, extrait du disque L'eau qui mord, avant de retrouver Jean-Jacques Guillet, petit-fils de paysan et militant écologiste, aux prises depuis des décennies avec les ravages de l'agro-industrie.
3 milliards d'années d'évolution, 3 milliards d'années, grosse déception.
Le président de la COP de l'eau habite le même village que moi. J'ai été élu, et avec une étiquette, pas écolo, mais bon, ils voyaient bien que quand même, j'avais un peu les yeux verts. Il y avait 9 agriculteurs, et le maire, qui était Bélivier de Prins de la Motte Rouge, on était dans l'ancien temps là, hein, qui gérait ses serres. Ils ont bien voulu que je sois élu, parce que j'allais faire les comptes rendus, j'allais être le secrétaire, quoi. J'allais m'occuper des papiers. J'ai été réélu maire à 3 reprises, parce qu'ils se sont bouffés entre eux. À cette époque-là, il y avait encore des éleveurs, il y avait encore des animaux. Sur les 9, il y en avait encore 5 qui avaient des animaux. Aujourd'hui, sur cette même commune, ils ne sont plus que 3 et essentiellement céréaliers. Mais ils ne sont plus dans le conseil. Ils ne sont plus représentatifs de la population. Et ils ont un peu réussi, quoi. Ils ont bouffé leurs voisins, ils ont des chevaux, ils ont des prairies pour les chevaux. Hein. Mais ça n'a plus rien à voir avec l'agriculture, quoi. Ils ont perdu le pouvoir, quand même, quelque part. Enfin, c'est le cas sur ma commune, mais c'est malheureusement pas le cas partout. Ils sont pas idiots, pas tous. Il y en a quand même, ils sont un peu lourds.
C'est une erreur de croire ça.
Non, il faut pas croire ça. Mais quand on s'est fait manipuler, quand ça dure depuis des années, prendre conscience qu'on s'est fait avoir et oser l'avouer, c'est pas si facile que ça quand même. Hein. Bon. Bon, c'est difficile d'avoir une conversation avec eux. Ils vont avoir le discours qu'ont beaucoup de nos élus. Ce qui compte, c'est l'économie. Ce qui compte, c'est le PIB, l'exportation, la machine tourne à plein et qu'on sorte du pognon pour après essayer d'éponger la misère. Ils se raccrochent à ça. Sans eux, l'économie va s'effondrer. Et ce n'est pas tout à fait faux. On a mis en place un système qui fait qu'aujourd'hui, s'arrêter du jour au lendemain, ça ne sera pas possible. C'est des emplois, c'est un fonctionnement, c'est des entreprises, c'est tout un système. C'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour les déchets, c'est vrai pour tout. Quand on a mis en place des réseaux de distribution, ça a amené du progrès quand même. Pas seulement de la nourriture pas chère et peut-être pas toujours très bonne, mais ça a permis à des gens qui ont peu de revenus, c'est l'argument principal, quoi. Pouvoir aller faire leurs courses, on leur donne le minimum et ils peuvent vivoter. Casser ça pour dire, ben non, on essaie de mieux partager, on essaie de revenir encore une fois à quelque chose de plus, j'allais dire, raisonnable. Il y aura peut-être un peu moins de riches et sans doute un peu moins de pauvres, mais on va essayer d'égaliser les choses. Ça veut dire qu'il faut fermer un certain nombre d'usines, arrêter des camions, revoir toute l'économie, quoi.
Je l'ai lu dans le livre des soulèvements de la terre, Première secousse. Il y a eu des exemples dans l'histoire. 1789, bon, qui est la révolution bourgeoise qu'on sait, hein, on a changé d'oppresseur. Une monarchie du sang a été remplacée par une monarchie de l'argent. Mais à la base, crise frumentaire et puis des états généraux et c'est une révolte foncière aussi. Bah, les soulèvements, bah, si non merci, tout ça c'est aussi une révolte agricole et une révolte foncière. Et donc je vais utiliser un grand mot là, il faudra entamer un processus révolutionnaire.
Les champs des terres. Complètement, mais c'est un problème de propriété. Quand on était sur une gestion des communaux, les gens avaient des animaux et puis qu'on lâchait les animaux sur une grande prairie qui appartenait à la commune. Dans le marais mouillé, là, moi où je suis, là, toutes les communes avaient leurs marais communaux. Donc cette gestion commune en commun de proximité, il faudra revenir à ça. Il faudra revenir à ça. Mais ça veut dire qu'on remet en cause la propriété. Si on veut protéger les captages, c'est quand même les fonds de vallée, là où ils font du maïs, où ils retournent les prairies, et c'est l'eau potable. Et donc si on ne veut pas arriver à un moment donné, on n'aura plus ni la quantité ni la qualité, eh bien oui, en priorité, des villes l'ont fait, hein, Munich, Berlin, et même Paris maintenant, hein, des collectivités qui achètent des hectares pour dire, bon ben si, on ne va pas laisser ça reprendre par la forêt, mais on prend des agriculteurs qui travaillent proprement, et on remet de la prairie, on fait du potager, on fait... On nourrit la ville, mais en même temps, on protège l'eau potable et on protège notre environnement et notre milieu. Mais ça, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est d'autorité. Il faudra dire non, c'est pas raisonnable. Ce que tu fais, on t'a entraîné à le faire, tu maîtrises plus rien du tout, tu vas plus faire ça. J'ai dit un jour que j'étais en colère, si on voulait défendre l'intérêt général, ces agriculteurs-là, qui nous empoisonnent la terre, qui nous empoisonnent notre avenir, il vaudrait mieux qu'on les paye à rester chez eux correctement, on s'y retrouverait. Parce que quand on sait que ce modèle agricole, pour essayer de rattraper le coup derrière, il nous coûte 10 fois plus cher que s'il n'existait plus, on aurait intérêt à les payer à ce qu'ils restent chez eux. La première des choses à faire, ça serait un... de leur dire maintenant on te paye, tu restes là. Là-bas, non, tu ne vas plus cultiver là-bas, parce que là-bas, tu vois, c'est une zone où il y a de l'eau dessous, on veut la préserver. Donc, ou alors, si tu veux, bon, oui, avec un contrat, et puis on regarde ce que tu fais. Et on te paye correctement pour un travail qui n'empoisonne pas tout le monde.
Toi le premier.
Toi le premier, et pas notre avenir. C'est vrai que ça risque d'être difficile, mais il faut avoir le courage politique à un moment donné de commencer. Ça commence. Moi, je trouve dans les soulèvements et dans tous ces jeunes, enfin, je connais la plupart de ceux qui ont écrit le bouquin et même ceux du film, et c'est dommage parce qu'il y a tellement d'intelligence, de générosité, de spontanéité, de connaissance et du monde paysan et de l'histoire des paysans et de l'environnement en général. On ne pouvait pas garder tous les témoignages, ça aurait été beaucoup trop long, mais c'est quand même frustrant. Parce qu'il y a de sacrées pointures là-dedans. Il ne faut pas donner les noms, parce que sinon, on les emmène devant le tribunal. Mais il y a de sacrées femmes et de sacrés hommes qui méritent véritablement d'être écoutés et entendus surtout. Parce qu'ils ont un autre niveau de culture que des sénateurs que je nommerai pas, ou des députés qui nous baladent depuis des années, qui ne méritent pas d'être élus. Un des premiers ménages, c'est celui-là qu'il faut faire. C'est aller voter, aller bien voter, aller voter pour des jeunes qui tiennent la route. Il y en a. Ce qui me désole, mais bon, ça évolue. Mais dans les soulèvements, beaucoup, ils vont même plus voter parce qu'ils sont dégoûtés. C'est trop longtemps que ça dure, quoi. Ils ont perdu espoir. Puis voir à quel point aussi, c'est plus les politiques vraiment qui ont la main. On voit des guignols manipulés par les lobbies. Et du plomb en est un. Sarkozy en était un super. Bon, un petit guignol en plus, lui. Il y a du ménage à faire.
Pas bien de critiquer le physique.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire autrement quand même. Quand on est un roquet et puis qu'on veut japper, puis qu'on veut jouer les pitbulls, je ne peux pas le supporter, celui-là. Quand j'ai été élu, la secrétaire a ramené de la préfecture le portrait du président. Et il fallait l'accrocher dans la mairie parce que ça se faisait. Je n'ai jamais voulu l'accrocher. On l'a monté aux archers dans la poussière et je n'ai pas voulu le mettre. Il a fallu expliquer que la République, c'était un drapeau, c'était une Marianne, c'était un écusson, mais ce n'était pas la tête du président, et surtout pas celui-là.
Conclusion, ce serait avant que ce qu'on appelle la nature qui fait ce qu'elle a à faire, se ressaisir avant que les éléments nous imposent de toute façon la catastrophe.
La nature nous survivra, hein. La nature s'adaptera, elle a du mal en ce moment, hein. Ça va trop vite. Les fourmis nous survivront, la nature nous survivra, on n'est rien du tout là-dedans, nous. On ne l'a pas compris. On imagine qu'on maîtrise tout, on ne maîtrise rien. On n'était pas là les premiers. Quand on représente l'humanité sur une pendule, c'est même pas ridicule, c'est inexistant. Et on a été capable, en moins d'un siècle, de tout bousiller. Et je suis de ceux qui étaient là au moment de ce siècle-là. Il n'y a pas de quoi être fier. On a tout bousillé depuis les 30 Glorieuses, quoi, depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est pas si vieux que ça. On a été capable d'empoisonner le ciel, on a été capable d'empoisonner les sols, on a été capable de créer le nucléaire avec des capacités de destruction de la Terre entière. Et on pourrait être fier de nous. Il n'y a pas de quoi être fier, non.
Peut-être une révolution à faire dans nos têtes, c'est d'arrêter de croire qu'on est en...